On va tout de suite se rendre du côté du Parlement jurassien avec vous, Émilie Moumentaler, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, bienvenue ici en direct de l'hôtel du Parlement. C'est donc l'heure des traditionnelles questions orales. 14 questions ont été annoncées. On va commencer avec la première du député indépendant Yves Gigon de Courgenay.
Le département de la formation poste laissé vacant par le départ d'Elisabeth Baumschneider. Il était dans un état si pitoyable que vous avez dû courageusement procéder à un audit externe. Cet audit a mis en lumière des dysfonctionnements extrêmement importants et a préconisé plusieurs pistes pour rétablir la situation. D'où ma question au gouvernement, est-ce que la situation est enfin rétablie au service de l'enseignement? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci monsieur le député pour la réponse du gouvernement. Je passe la parole à monsieur le ministre Martial Courtais.
Oui, merci monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, chers collègues. Je vais évidemment profiter de cette question orale pour vous donner quelques éléments, monsieur le député. Ça me donne d'ailleurs une tribune pour le faire, et dans ce sens-là, je vous en remercie. Par contre, c'est vrai que ce ton polémique n'est guère intéressant, puisque je l'avais déjà dit aux journalistes à l'époque, les choses étaient connues, l'état du service de l'enseignement était connu, ma prédécesseur m'en avait informé. Donc dans ce sens, quand on reprend un département, notamment comme celui que j'ai là, chance de présider avec 1500 personnes, forcément ça arrive qu'il y ait des soucis à régler, bien évidemment, et c'est ce que nous essayons de faire au mieux, et je crois pouvoir dire que ça se passe bien. Compte tenu de cela, effectivement, vous vous souvenez de l'audit que j'avais lancé, vous le rappeliez, 5 points, on ne veut pas s'étendre, mais en fait peut-être rappeler quand même ces éléments. De cet audit sont ressortis 5 éléments, j'y reviens juste brièvement pour faire un petit bilan, mais très court. 1, il était dit ceci, les rôles et responsabilités des sections et des collaborateurs n'étaient pas clairs, et bien dans ce sens nous avons travaillé afin de faire un nouvel organigramme et nous avons rédigé un cahier des charges pour chaque employé. 2e point, certains collaborateurs du service de l'enseignement ne sont pas suffisamment compétents, c'est ce qui ressortait de l'audit. Je tiens à préciser que le chef de service, certes, a dû s'en aller, mais que tous les maux du service ne lui incombaient pas. De ce fait, signalons que 35% du service a changé depuis, 35% des personnes ont changé, sans compter les départs naturels. Donc à ce niveau-là, le travail a été fait. 3e élément, l'activité du conseil pédagogique ne donne pas satisfaction. Nous avons séparé le conseil et le contrôle au niveau des enseignants et nous avons engagé dans le budget, sans augmenter le budget, donc nous avons engagé une inspectrice. Point 4, des prestations informatiques ne sont pas efficientes. Eh bien, nous avons, là encore une fois, sans augmenter le budget, en faisant d'autres choix, disons, stratégiques, nous avons engagé un responsable informatique qui a un lien quasiment journalier avec les communes. Je me suis d'ailleurs rendu à l'AJC aussi pour faire passer ce message auprès des communes et ça fonctionne bien. Et dernier point, la dotation en ressources humaines semble insuffisante. Eh bien, c'est le seul point de l'audit que nous n'avons pas écouté. Nous avons fait ces changements sans augmenter le personnel du service de l'enseignement. Voilà les informations que je pouvais vous donner et des informations qui sont actuelles. Merci de votre attention.
Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, quelle est votre appréciation ?
Satisfait.
Monsieur le député Yves Gigon est satisfait et nous passons à la 2e question orale. Et pour ça, je passe la parole à monsieur le député Fabrice Maca.
Fabrice Maca, député suppléant PS de Kourou.
Monsieur le président, madame et messieurs les ministres, chers collègues. Depuis l'annonce surprenante du ministre David Herret de lever le gel des dossiers relatifs à la construction d'antennes 5G à la fin juin, les demandes de permis de construire pour la construction de nouvelles antennes de téléphonie avec la technologie 5G fleurissent dans les éditions du journal officiel. Pas moins de 7 dépôts de permis pour de nouvelles installations de téléphonie mobile, donc de 5G, et 3 dépôts pour des changements ou modifications d'antennes existantes. Donc, très certainement, l'adaptation de la technologie 5G sur des installations existantes, et ceci depuis le mois d'août. Les habitants de Beurnevezin, Montsevelier, Halle, Fontenay, Bouécourt, La Baroche, Courtedoux, Le Noirmont ou encore Courchapois doivent maintenant faire face à l'arrivée de la 5G sur leur territoire de leur commune respective. Et pour certaines, c'est déjà trop tard, car le délai pour les oppositions est déjà dépassé, la communication au sujet de l'implantation de ces technologies potentiellement néfastes pour la nature les animaux et les humains ayant été très discrètes. En sachant que suite au courrier, pour le moins succinct et orienté, de l'Office fédéral de l'environnement, les cantons de Genève ou encore de Vaud n'ont pas levé le gel des installations de 5G, au contraire de notre canton. Le sentiment général de la population, et plus spécifiquement des habitants des villages directement concernés, est que les opérateurs font le forcing pour installer un maximum d'installations 5G avant les conclusions du rapport demandé par la Confédération, qui pourrait aboutir à un moratoire sur la 5G si les analyses démontrent une dangerosité de cette technologie aux effets encore peu connus. On s'étonne que le ministre en charge du dossier ait fait preuve d'autant d'empressement à lever le gel des installations de la 5G, alors que le principe élémentaire de précaution prévalait dans cet épineux dossier. D'où ma question, simple mais fondamentale. Monsieur le ministre, n'êtes-vous pas d'avis que le bien-être et la santé de nos concitoyens doivent passer avant tout autre intérêt, notamment les intérêts économiques des opérateurs ? Je remercie le ministre pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre David Herret.
David Herret, ministre de l'Environnement.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, monsieur le député, merci de poser cette question intéressante qui, effectivement, est très sensible actuellement et suscite beaucoup d'émotions. Je vous rappellerai juste un petit peu l'historique. En septembre 2018, le DETEC, le département fédéral de l'énergie, des transports, de la communication et de l'environnement, avait annoncé la création d'un groupe de travail pour étudier la venue de la 5G, l'arrivée de la 5G et surtout les paramètres techniques en vertu des principes de précaution. Ceci était donc en septembre 2018. Au printemps 2019, le même DETEC a octroyé les concessions à différents opérateurs pour l'installation de la 5G. Et effectivement, c'était un petit peu troublant de s'imaginer que les concessions étaient octroyées alors que les spécifications techniques n'étaient pas définies. Spécifications techniques qui étaient annoncées pour mi-2019 et qui, depuis lors, ont été annoncées pour fin 2019. Et à ce moment-là, effectivement, les cantons du Jura, de Vaud et de Genève ont écrit à la conseillère fédérale en charge du dossier, Mme Simonetta Sommaruga, pour lui demander des éclaircissements par rapport au fait que les concessions ont été vendues ou octroyées à ces opérateurs alors que les critères techniques n'étaient pas définis. Et donc, Mme Simonetta Sommaruga a répondu assez clairement au canton en expliquant qu'effectivement, l'aide à l'exécution relative à l'ORNI pour la 5G était attendue pour la fin de l'année, mais qu'en parallèle, des principes de précaution très stricts avaient été pris par le département, géré donc par Mme Simonetta Sommaruga, en indiquant très clairement que les antennes adaptatives, donc ce sont les antennes 5G, seront traitées selon le scénario du pire des cas. Ça, c'est donc la situation actuelle. Et elle indique également que donc elle tient compte de la puissance maximale de rayonnement qui garantit donc que le rayonnement ne dépasse pas les valeurs de l'ORNI, y compris dans les faisceaux de ces antennes adaptatives. Nous avons donc là une réponse très claire du DETEC, de Mme Sommaruga, qui confirme que la situation de la 5G actuelle n'est pas du tout différente de la 4G ou de la 3G qui existe déjà. Et à partir de là, nous n'avions effectivement plus d'arguments pour maintenir la suspension des demandes d'autorisation. En parallèle, nous avons eu une réunion le 23 septembre au niveau des directeurs des travaux publics, au niveau suisse, à Baden. Et là, nous avons également exprimé, nous les cantons, envers la Confédération, quelques indications. Nous avons exprimé qu'à l'unanimité, que la Confédération devait prendre les craintes de la population très au sérieux. Nous avons également demandé à ce que les prochaines concessions 5G, notamment ces fameuses ondes millimétriques qui sont tant décriées par certaines personnes qui semblent mettre en exergue des soucis par rapport à la santé, nous avons donc, nous les cantons suisses, unanimement demandé à ce que les aides à l'exécution, lorsque ou si ces ondes millimétriques sont octroyées, que les aides à l'exécution soient disponibles avant de vendre les concessions, donc pas selon le principe qui a prévalu jusqu'à présent. Également, nous avons demandé que toutes les études qui démontrent s'il y a des risques pour la santé soient disponibles, soient également officiellement démontrées et publiées, et que dans l'affirmative où elles existent, également que des mesures soient prises, toutes les mesures nécessaires pour que la population ne risque rien avec cette évolution. Donc voilà donc le dossier, mais pour répondre à votre question, effectivement, le DETEC, le département de Mme Sommaruga, a écrit au canton que la situation actuelle n'est pas du tout différente de la situation 4G-3G. Donc on peut être opposé aux ondes en général, à la téléphonie en général, mais factuellement, on ne peut pas s'opposer à la 5G telle qu'elle est développée aujourd'hui en Suisse par rapport à la situation qui prévaut avec la 3G et la 4G. Et par rapport à votre allusion sur Genève-Evo, sachez qu'à Genève, il y a déjà plus de 100 antennes qui sont équipées 5G et qui fonctionnent. Donc c'est vrai que la suspension de mon homologue n'a pas d'incidence actuellement sur le développement de la 5G, notamment les activités économiques et relatives, puisque son territoire
est déjà bien équipé. Les délais des 4 minutes est écoulé. Ça me permet de rappeler également que les personnes qui posent une question orale ont, selon notre règlement actuel, 2 minutes et que ça englobe la question. Donc je me permettrai peut-être, si la question n'est pas posée après 1 minute 45, de bien vouloir demander à l'intervenant de poser sa question clairement. Voilà, pour la réponse donnée par le gouvernement, je demande à monsieur le député son appréciation. Monsieur le député Fabrice Maca n'est pas satisfait. Nous passons donc à la troisième question orale et pour ça je passe la parole à madame la députée Danielle Chariat.
Danielle Chariat, députée PDC de Porrentruy.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Ministres, chers collègues, nous arrivons en période où chacun se pose la question de savoir s'il est affilié à la meilleure caisse maladie et la moins chère. Nous voulons tous également garder une certaine liberté de choix de médecin et de pharmacie. Or, depuis quelques années, certaines caisses maladies signent des contrats de partenariat avec des pharmacies qui, vous l'aurez compris, font partie de grands groupes. Si ces caisses invitent de façon appuyée leurs affiliés à se rendre dans ces pharmacies, le traitement fourni par un autre prestataire sera malgré tout remboursé. Le patient reste libre de ses choix. Cette année, le groupe mutuel franchit un nouveau pas. En effet, il est proposé aux clients de ce groupe de caisses maladie une nouvelle offre qui se nomme Prima Pharma. Si le client économise 14% sur ses primes, il est indispensable qu'il soit averti des points suivants. Avant de se rendre chez son médecin de famille, la personne malade devra passer par un pharmacien partenaire qui décidera s'il est vraiment nécessaire de consulter. Le patient n'a pas le choix. Il doit se rendre dans une pharmacie d'un grand groupe, partenaire de cette caisse maladie. Ce n'est plus le patient qui décide de se rendre chez son médecin, mais bien un pharmacien. Certes, notre système de santé coûte cher et nous devrons tous faire des efforts. Cependant, les caisses maladies se donnent avec de tels contrats le droit de priver ses clients de toute liberté de choix. Le gouvernement est certainement au courant de cette nouvelle offre, d'où ma question. Une des tâches des assistants sociaux est de signer les contrats de caisses maladies de leurs pupilles. Le gouvernement peut-il intervenir auprès de ces derniers afin de les inciter à ne pas priver leurs pupilles de cette liberté de choix et à ne pas contracter ce genre d'offre qui peut paraître alléchante? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci Madame la députée pour la réponse du gouvernement. Je passe la parole à Madame la ministre Nathalie Barthoulot.
Nathalie Barthoulot, ministre de l'Intérieur.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, la question de la liberté de choix et de contracter en matière d'affiliation à une caisse maladie et d'accès aux soins est une préoccupation légitime et qui concerne tous les assurés jurassiens. À chaque fin septembre, des nouvelles peu réjouissantes sont annoncées concernant les primes d'assurance maladie qui augmentent dans le fond désespérément. Madame la députée, vous soulevez la question en particulier de la réalité des plus vulnérables de nos concitoyens et dans ce cadre, je peux préciser les éléments suivants. Il y a lieu tout d'abord de rappeler que les personnes au bénéfice de l'aide sociale bénéficient du droit au subside de caisse maladie, ce qui implique la prise en compte dans l'établissement du budget d'aide sociale d'un forfait reconnu au niveau cantonal. Ce forfait est calculé sur la prime de l'assureur qui offre la prime la plus avantageuse sur le territoire cantonal. Cette limite ne tenait pas compte jusqu'à aujourd'hui des modèles d'assurance alternatifs, dont celui que vous avez évoqué, et était donc calculée sur la base des primes pour le modèle traditionnel, avec la franchise minimale, et pour les bénéficiaires de l'aide sociale, sur la base de l'assureur le meilleur marché en tiers payant. Toutefois, pour l'année prochaine, le modèle dit du médecin de famille sera privilégié dans le choix de la prime faisant office de référence. Il y a lieu ensuite de préciser qu'aucune directive n'incite formellement aujourd'hui les assistants sociaux et les curateurs à imposer un modèle de soins particulier aux personnes qu'ils accompagnent. Mais il est évident qu'un soin tout particulier est porté quant au choix de la caisse maladie et du modèle de soins qui doit s'inscrire dans le budget de la personne. Une distinction doit être faite entre les bénéficiaires de l'aide sociale et les personnes au bénéfice d'un mandat tutélaire. La majorité des pupilles au bénéfice d'un mandat de curatelle ne sont pas au bénéfice de l'aide sociale. Et l'évaluation de la situation effectuée par l'assistance sociale dans le cadre du suivi apporté tiendra compte de la composante caisse maladie, comme nous le faisons toutes et tous dans la gestion de nos propres affaires. De manière générale, les assistants sociaux analysent la situation au cas par cas et effectuent une pesée d'intérêt afin de conseiller les usagers vers un modèle qui soit à la fois avantageux et respectueux de leurs besoins particuliers qui dépendent de l'état de santé, de l'âge, du degré d'autonomie, de la région géographique et en définitive des souhaits de la personne concernée. En conclusion, Madame la députée, vous pouvez être rassurée sur le fait que les services sociaux n'économisent pas sur les libertés des personnes qui font appel à leurs services et essaient dans tous les cas de trouver le meilleur modèle d'assurance, soit le plus efficace et le plus efficient, pour les personnes ayant des difficultés temporaires ou durables dans leur trajectoire de vie.
Merci Madame la ministre. Madame la députée, puis-je vous demander votre appréciation ? Madame la députée Danielle Chariat est satisfaite et nous passons à la quatrième question orale. Et pour ça, je passe la parole à Madame la députée Françoise Chéniat.
Françoise Chéniat, députée PDC du Noirmont, qui monte à présent à la tribune pour la quatrième question orale.
Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question est très courte. Il s'agit de la péréquation financière qui est remise en question par les cantons riches. Cette remise en question va priver le canton du Jura d'une manne importante, voire nécessaire à son fonctionnement. Le gouvernement peut-il nous dire si les décisions prises récemment sont définitives ou s'il y a possibilité de revenir sur ces sommes allouées ou plutôt non allouées tout en redéfinissant les critères d'attribution ? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci Madame la députée pour la réponse du gouvernement. Je passe la parole à Monsieur le ministre Charles Juillard.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, la péréquation financière entre la Confédération et les cantons est régulièrement questionnée, en particulier par les cantons contributeurs qui ont toujours le sentiment de payer trop. Et les cantons bénéficiaires de ne pas recevoir assez, en particulier, vous l'avez vu l'année passée, le Jura, le Valais, Fribourg, qui se sont fortement opposés aux décisions finales qui ont été prises par les chambres fédérales. Mais voilà, les chambres fédérales ont décidé. Et dans ce cadre-là, il est prévu de faire un rapport d'évaluation sur les effets de la péréquation et son évolution dans 6 ans. Et c'est à ce moment-là que d'éventuelles adaptations pourront intervenir. Quand bien même, je suis à peu près convaincu que les cantons contributeurs qui pensaient avoir décroché le jackpot sont déjà en train de se poser des questions en soulevant des points que nous avions nous-mêmes mis en exergue, à savoir la volatilité du système, puisque tout est calqué sur l'évolution de l'indice des ressources du canton le plus faible, et le canton le plus faible, c'est le Jura. J'aurai l'occasion, au nom du gouvernement, demain, de présenter à la CGF et puis à la presse le budget de l'année prochaine, qui, justement, un des chapitres sera celui-là, parce que nous avons des surprises fort intéressantes, mais auxquelles on pouvait s'attendre ou pas, parce que ça peut évoluer dans un sens comme dans l'autre avec un système péréquatif, puisque c'est un système extrêmement compliqué qui, comme je l'ai dit, tient compte de l'évolution de la capacité de ressources du plus faible des cantons, mais tout ça en regard de l'ensemble des autres cantons. Aussi, aujourd'hui, bien sûr que nous ne sommes pas satisfaits de ce résultat, malgré tous les efforts que nous avons essayé de faire pour fédérer autour de nous les cantons à faible capacité, en particulier les cantons suisses alémaniques, mais c'est un objet qu'il faut remettre régulièrement en avant pour le rediscuter, le re-questionner et essayer de trouver un meilleur équilibre. Il en va de la solidarité confédérale entre cantons plus forts et cantons moins forts. Mais je répète, c'est quelque chose qui sera revu au moins dans 6 ans, sinon avant, si on voit que le système ne donne pas satisfaction, comme certains semblent vouloir le dire aujourd'hui.
Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée, quelle est votre appréciation ? Madame la députée Françoise Chéniat est satisfaite et nous passons à la 5e question orale. Pour ça, je passe la parole à Madame la députée Rosalie Buret.
Rosalie Buret, députée PS de Porrentruy.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, en juillet dernier, face au dépérissement de milliers de mètres cubes de hêtres, mais aussi de frênes et d'épicéas, le canton annonçait une situation de catastrophe forestière. Deux mois plus tard, une stratégie cantonale était présentée pour tenter de sécuriser la forêt, mais aussi lui offrir des perspectives d'avenir. Cette réactivité démontre l'ampleur du phénomène. La situation est grave et des mesures urgentes doivent être mises en œuvre, notamment pour tenter de valoriser le bois sec. Parallèlement, l'urgence climatique est reconnue et un virage en faveur des énergies renouvelables doit être pris. Dans ce contexte, l'énergie bois se présente comme une solution particulièrement intéressante, permettant d'allier ces deux préoccupations. Elle est à encourager et à renforcer. Vous ne serez dès lors pas surpris si l'annonce par un grand établissement parapublic de se raccorder au gaz nous a interpellés, tout comme le fait que des administrations ou bâtiments communaux fassent le même choix aujourd'hui. Ma question au gouvernement est la suivante. Face à cette situation, le gouvernement n'estime-t-il pas qu'il y a conflit d'intérêts lorsque la société chargée de la mise en œuvre de la stratégie énergétique cantonale, soit la société Énergie du Jura SA, s'occupe également de l'approvisionnement en gaz naturel du canton? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Monsieur le ministre David Herret.
Voilà, Madame la députée, alors non, le gouvernement ne pense pas qu'il y a un conflit d'intérêts puisque la société dont vous parlez, EDJ, Énergie du Jura, SA, a un mandat de prestation très clair qui est donc un contrat de prestation qui définit les prestations qui sont demandées à EDJ par l'État, contrat de prestation qui est suivi bien évidemment année après année. Donc nous avons une vérification que ce que nous demandons, ce que nous finançons est bien exécuté dans le sens voulu. Et les autres activités de EDJ finalement appartiennent à EDJ, à ses actionnaires, qui sont des collectivités publiques, des sociétés privées, mais également en main publique. Donc à ce niveau-là, nous ne pouvons qu'observer ce que font les sociétés privées dans l'économie jurassienne. Quant au choix des uns ou des autres de se raccorder à telle ou telle sorte d'énergie, nous prenons acte également de ce qui se passe. Par contre, nous avons un programme pour favoriser certains types d'énergie. Et pour en revenir tout d'abord à la catastrophe forestière dont vous avez mentionné en préambule de votre question, eh bien effectivement, là, nous avons directement défini une stratégie donc cantonale en trois volets avec 10 points très précis. Trois volets qui concernent la gestion des dégâts, qui concernent la reconstitution des forêts endommagées, et le troisième volet à réfléchir et adapter les conditions cadres pour l'avenir. Mais vous me direz que ceci est bien beau, mais que faire dans l'immédiat? Eh bien, dans l'immédiat, nous avons déjà, par le passé, pris des mesures qui pourraient venir en aide aujourd'hui. C'est par exemple les mesures du programme bâtiment, qui permettent de favoriser, d'inciter par une subvention les gens à se raccorder soit à des thermoréseaux, soit à s'équiper de chauffage bois. Nous avons donc une aide, par exemple, pour le soutien au nouveau raccordement. Nous avons également un soutien à la construction ou à l'extension de stations de chauffe existantes, un thermoréseau qui voudrait se créer ou se développer. Il y a également la fondation CLIC qui permet d'avoir une subvention, mais qui n'est pas cumulable avec le programme bâtiment. Donc, par exemple, thermoréseau à Porrentruy est sous l'aide du programme CLIC et pas du programme bâtiment, parce qu'ils ont fait un choix certainement très intelligent à ce niveau-là. Et puis au niveau de la situation actuelle, eh bien la section de l'énergie du service de développement territorial réfléchit actuellement à un soutien financier aux études pour la planification de chauffage à distance, donc dans le but de favoriser ou de catalyser encore le développement de ces chauffages à distance. Au niveau du programme bâtiment, et il nous semble donc que les taux actuels ne sont pas rebutants, sont même incitants à vouloir se raccorder. Mais nous devons également constater que nous ne pouvons pas développer des chauffages à distance comme ça en quelques semaines pour absorber les 200 000 mètres cubes de hêtres secs en ajoie. Et là, effectivement, nous devons également reconnaître que dans l'immédiat, nous ne pouvons pas absorber tout ce bois. Et nous pouvons par contre encourager effectivement toutes les entreprises, tous les bâtiments, tous les propriétaires, toutes les communes à développer des chauffages à distance, à se raccorder à des chauffages à distance, à s'équiper de chauffage à bois pour pouvoir si possible se chauffer avec l'énergie locale que nous avons, notre bois, puisque même avant la catastrophe forestière, il y avait déjà un potentiel inexploité pour se chauffer. Donc le potentiel existait, il s'est accentué depuis lors. Donc nous ne pouvons que donner un signal d'encouragement et d'incitation aux gens à se chauffer au bois.
Merci Monsieur le Ministre. Madame la députée, quelle est votre appréciation ? Madame la députée Rosalie Buret n'est pas satisfaite et nous passons à la question suivante. Et pour ça, je passe la parole à Monsieur le député Edgar Sauzère.
Edgar Sauzère, député PLR des Breuleux.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Ministres, chers collègues, que se passe-t-il au sein du triage forestier Franche-Montagne-Ouest ? Des bruits circulent, on parle de graves problèmes internes, de démissions, voire même de licenciements. Le triage forestier étant soutenu financièrement par l'État jurassien, le gouvernement est-il au courant de ces problèmes ? Et le cas échéant, pourrait-il nous donner quelques précisions à ce sujet ? Je remercie d'avance le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre David Herret.
Oui, monsieur le député, le gouvernement est informé de la situation dans le triage Franche-Montagne-Ouest, où nous avons effectivement observé qu'il y a des conflits assez profonds au sein du triage. Et effectivement, nous avons également observé une certaine maladresse dans la conduite de ce triage, avec notamment un licenciement, un retour en arrière, des procédures qui ne sont pas encore terminées et qui pourraient finalement aussi coûter au triage, donc aux communes des Franches-Montagnes. Je dois vous dire que la marge de l'État est quand même limitée dans ce dossier, puisque c'est avant tout une compétence communale. Mais pour ce qu'il en est des tâches qui sont transmises de l'État au triage, donc les tâches qui sont déléguées au triage, eh bien évidemment que nous veillons à ce que ces tâches soient faites avant de donner le financement. Si la situation de conflit dans ce triage ne permet pas de réaliser les tâches que l'État demande à ce triage, eh bien évidemment que les montants ne seront pas payés à ce triage, qui ensuite finalement se débrouillera avec les moyens dont il a à disposition pour faire ses tâches habituelles. Nous avons également eu l'information que deux communes souhaitaient quitter ce triage, les communes des Breuleux et de la Chaux des Breuleux. Donc actuellement, nous ne pouvons qu'observer la situation. Nous sommes bien évidemment favorables à des triages régionaux qui ne soient pas des triages communaux et qui fassent cavalier seul. Mais ceci regarde les communes qui finalement prendront leurs décisions, mais qui devront surtout respecter la législation, puisque l'organisation des triages forestiers est également encadrée par une loi cantonale. Et je tiens également à souligner que les conséquences actuelles de cette situation seront à assumer par tous les partenaires actuels. Donc il est pour moi exclu que les communes quittent le triage, certaines communes, et n'assument pas ensuite les décisions qui ont été prises et qui pourront peut-être coûter quelques sous à ces communes par rapport aux décisions qui sont peut-être ensuite rendues par soit le tribunal des prud'hommes ou les différentes cours. Je tiens à dire que je regrette cette situation et qui n'a jamais été connue, que nous n'avons jamais connue à ce jour dans le canton du Jura, situation de conflit qui finalement a une victime principale, c'est la forêt jurassienne, ce sont les pâturages forestiers qui finalement ne pourront pas être traités, entretenus, soignés comme il se doit, puisque les effectifs actuellement ne sont pas pleins au niveau de ce triage, les conflits finalement ne sont pas porteurs, mais nous avons bon espoir que les communes reprennent la main dans ce dossier, dans une vision positive, dans l'intérêt de la forêt jurassienne.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Edgar Sauzère est satisfait. Ça va bien. Et pour la septième question orale, je passe la parole à monsieur le député Vincent Hénard.
Vincent Hénard, député PCSI de Montfaucon.
Merci, monsieur le président. Chers collègues, madame et messieurs les ministres, le 25 octobre 2017, notre collègue Philippe Rotet demandait à cette tribune que le gouvernement s'approche des cantons de Genève et Vaud afin qu'il participe aux travaux en cours liés au coût de la santé. Dans sa réponse, le ministre a écarté toute idée de collaboration. Depuis, le canton de Neuchâtel a rejoint les deux cantons limaniques. La création de caisses publiques cantonales ou supracantonales figure au centre de ces travaux. Elle permettrait une mutualisation des réserves, point que défendait le ministre dans sa réponse en 2017. Face à l'augmentation incessante des subsides versés par le canton, la réalisation de ce projet aurait entre autres comme avantage de mieux contenir ce poste de dépenses qui plombe les comptes de l'État. D'autres effets positifs sont attendus pour les assurer. En 1996, lorsque la LAMAL a été instaurée, le Conseil fédéral indiquait qu'il ne fallait pas que les primes représentent plus de 8% du revenu disponible. Nous en sommes aujourd'hui à 14%. Je rappelle aussi que 63% des jurassiennes et jurassiens ont dit oui en 2014 à l'initiative fédérale pour une caisse unique. Ma question est simple. Afin de respecter la volonté des jurassiennes et jurassiens exprimée par les urnes, le gouvernement va-t-il prendre contact avec nos voisins genevois, vaudois et neuchâtelois afin de s'engager dès aujourd'hui dans le processus de création de caisses cantonales, voire supracantonales ? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député, pour la réponse du gouvernement. Je passe la parole à monsieur le ministre Jacques Gerber.
Monsieur le président, mesdames et messieurs, chers collègues, monsieur le député, le contenu de votre question n'est pas tout à fait adéquat en lien avec une question orale. Le gouvernement n'a à ce stade pas assez d'éléments pour répondre à brûle pour poil à votre question. Par contre, je peux vous assurer que les collaborations avec les autres cantons sont de mise, quasi sur une base mensuelle. Nous discutons non pas forcément de ce cas précis en lien avec la caisse maladie cantonale, mais toutes les réflexions possibles pour limiter les coûts liés au système de santé. Vous avez mentionné que le peuple s'était prononcé. Je permets ici juste un petit rectificatif. Le peuple ne s'est jamais prononcé sur les projets qui sont actuellement en cours de réflexion, notamment dans le canton de Vaud ou le canton de Genève. Le canton du Jura, par contre, va suivre attentivement l'évolution de ce dossier, qui est pour l'instant porté uniquement par le canton de Vaud, mais sans y participer activement. On en discute notamment au sein de la classe. Le gouvernement est favorable à ce qu'il y ait des projets pilotes, que ces projets puissent se mettre en place dans un environnement qui le permet. Le canton de Vaud le permet de par, bien sûr, sa taille, notamment sa population, ce qui ne serait pas possible actuellement dans le canton du Jura. Je précise au demeurant que rien à ce stade ne permet de garantir que les primes n'augmenteraient pas avec le modèle mentionné par le canton de Vaud. Et ça, c'est sans idéologie que je mentionne ce point. Par contre, alors oui, des réformes sont indispensables dans le domaine de l'assurance maladie. Par exemple, toute la question du projet du financement uniforme des soins qui est actuellement traité par les chambres fédérales et qui doit absolument également prendre en compte le financement des soins de longue durée pour garantir justement la durabilité et le succès de cette réforme. Et également des questionnements sur la mutualisation des réserves, mais pas au niveau cantonal, au niveau fédéral. Et dans cette optique-là, bien sûr que le canton du Jura participerait à de telles réflexions.
Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, quelle est votre appréciation ? Monsieur le député Vincent Hénin est satisfait. Nous passons à la 8e question orale. Pour ça, je passe la parole à madame la députée Florence Bush.
Florence Bush, députée PDC de Boncourt.
Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, chers collègues, la planification médico-sociale a été adoptée en 2011 dans le canton du Jura pour l'horizon 2022. Les trois axes prioritaires étaient les suivants. Privilégier le maintien à domicile, développer les centres de jour ainsi que les appartements adaptés et ou protégés et renforcer la prise en charge dans les lieux de vie des personnes souffrant de troubles cognitifs ou de maladies comme Alzheimer. L'arrêté précisait que la planification peut être modifiée en tout temps sur la base de nouveaux critères, indicateurs ou données statistiques pertinents. Lors de la présentation du rapport d'activité 2018 de l'hôpital du Jura, la direction nous a rapporté qu'il manquait actuellement une cinquantaine de places en EMS pour des personnes actuellement hospitalisées en lit d'attente à l'HJU. Or, toujours selon la direction, ces places pourraient être utilisées de façon plus bénéfique en lit de réadaptation. D'où ma question. Est-ce que les estimations de la planification médico-sociale chiffrées en 2011 ont déjà ou seront prochainement revues en fonction des besoins actuels en lieu de vie. Je remercie le ministre pour sa réponse.
Merci Madame la députée pour la réponse du gouvernement. Je passe la parole à Monsieur le ministre Jacques Guerber.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, je vais essayer de ne pas fourcher cette fois-ci. Comme vous l'avez indiqué, Madame la députée, la planification médico-sociale a été élaborée à l'horizon 2022 avec des chiffres qui dataient d'avant 2011. Donc il est bien clair qu'une telle planification doit être revue face notamment à l'évolution de la situation depuis l'adoption de cette planification médico-sociale. Le paysage, bien sûr, au niveau médico-social dans le canton du Jura a beaucoup évolué, avec notamment l'ouverture de 88 appartements protégés, 5 centres de jour pour 53 places, 73 lits supplémentaires en UVP, dont 35 lits en EMS qui ont changé d'affectation et 4 lits court séjour en EMS. Mais encore une fois, dans ce dossier, ce n'est pas la planification médico-sociale qui offre des places. La planification médico-sociale cadre l'évolution dans ce secteur. Et il est vrai que plusieurs projets sont en cours dans le canton du Jura. Mais il est aussi vrai que la construction de nouvelles structures sont souvent longues et fastidieuses. Le nombre de lits d'attente à l'hôpital du Jura est un souci, également pour le canton. C'est pas nouveau, c'est juste les chiffres aujourd'hui qui se situent autour de 50, comme vous l'avez mentionné, mais ça fait plusieurs années que nous avons ces lits d'attente. Mais la construction de nouveaux lits en EMS n'est pas forcément la solution. Bien sûr, nous comptons sur la construction de nouvelles structures, aussi bien des lits que des appartements protégés, que je viens de mentionner, mais c'est surtout en améliorant l'orientation et les flux que nous pourrons réellement atteindre les objectifs de la planification médico-sociale, dont les objectifs restent d'actualité. Peut-être que les chiffres en termes d'appartements protégés, EMS et autres, devront évoluer, mais nous sommes plus dans une optique la bonne personne au bon endroit, et c'est pourquoi je suis extrêmement heureux que nous avons pu mettre en place le RIO, le nouveau réseau d'information et d'orientation pour les personnes âgées dans le Jura. Le RIO est au service de la population depuis cet été et disposera bientôt de tous les outils informatiques nécessaires à l'évaluation des besoins des personnes. Le RIO fournira de précieux indicateurs pour éventuellement actualiser justement la planification médico-sociale actuelle, mais surtout pour élaborer la nouvelle planification médico-sociale qui succédera à celle-ci à partir de 2022.
Merci Monsieur le Ministre. Madame la députée, quelle est votre appréciation ? Madame la députée Florence Bösch est satisfaite et nous passons à la 9e question orale. Pour ça, je passe la parole à Monsieur le député Pierre-André Comte.
Pierre-André Comte, député du Parti Socialiste, habitant de Vellera.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame et Messieurs les ministres, en novembre prochain, le Jura accueillera pour Antruy les eurodélégués de Suisse. Le fait que la rencontre de cette année se tienne dans le Jura a, semble-t-il, un rapport avec le 40e anniversaire, et c'est très bien ainsi. Dans le cadre de la préparation de cette manifestation, un contact a été pris avec un des pères de la patrie, François Lachat, pour lui proposer de venir présenter aux eurodélégués le cheminement politique et juridique qui a abouti à la création du canton du Jura. La date lui a été communiquée, il l'a inscrite dans son agenda. Ce choix était un excellent choix en regard du parcours exceptionnel de François Lachat et son implication dans la politique d'ouverture de notre canton dès son entrée en souveraineté. Le problème est que quand il demande à l'administration de lui fournir les détails sur son intervention, on lui répond qu'on a changé les plans et qu'il n'est plus prévu qu'il s'exprime devant les eurodélégués sans autre explication. Était-il dangereux de le laisser parler dans le contexte actuel ? Je ne préjuge pas. Il faut ici rappeler que François Lachat a été président de la Commission de politique extérieure du Conseil national et qu'à ce titre, il aurait été le plus à même d'intéresser les eurodélégués, dont certains n'étaient pas nés en 1979, de les intéresser donc à notre histoire et ses épisodes inhérents à la politique fédérale. La création du canton du Jura fut un des événements politiques et institutionnels majeurs de l'histoire suisse du XXe siècle, et se priver de l'expertise d'un de ses témoins privilégiés est plutôt curieux. Je me permets donc de demander au gouvernement s'il a eu connaissance des modalités d'organisation de cette réunion, par conséquent de ce changement de plan et d'attitude à l'égard de l'ancien ministre et ce qu'il en pense.
Merci, monsieur le député, pour la réponse du gouvernement. Je passe la parole à monsieur le président du gouvernement, Jacques Gerber.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, effectivement, monsieur le député, les eurodélégués, soit les délégués aux affaires extérieures de toute la Suisse, des cantons de toute la Suisse, une rencontre se tiendra en 2009 dans le canton du Jura. Alors oui, ça tombe bien parce que c'est le 40e anniversaire, mais normalement dans ce genre de rencontre, il y a un tournus entre les différents cantons. Les eurodélégués sont des collaborateurs finalement administratifs des différents cantons suisses qui s'organisent, et je le précise, alors totalement librement, et qui décident souverainement des thématiques abordées à l'occasion de leur rencontre annuelle, que cette dernière se tienne au Jura ou ailleurs. La chancellerie d'État s'est occupée des aspects logistiques, c'est bien clair, lorsque nous avons une conférence intercantonale qui se déroule dans le canton, on met à disposition certains moyens pour trouver des locaux et pour donner certaines informations. C'est vrai qu'un contact exploratoire avait été pris dans le sens que vous avez mentionné avec l'ancien ministre François Lachat pour justement permettre durant cette rencontre d'avoir un témoignage sur la création du canton du Jura. Je précise que le gouvernement n'a jamais été associé à ces discussions, que la coprésidence est une coprésidence genevoise et de Bâle-Ville, et que dans la mise sur pied et l'organisation de cette rencontre, ils ont changé quelque part le programme. Et ils ont décidé d'orienter différemment leur discussion. Alors, ils ont demandé au président du gouvernement de venir, bien sûr, leur prononcer un petit mot de bienvenue, comme ça se fait d'habitude. Et puis, le thème principal qu'ils ont retenu et qu'ils désirent aborder lors de cette rencontre sera la détermination des autorités avant les votations, notamment en lien avec la jurisprudence du tribunal fédéral. Alors, si il eût été intéressant à cette conférence d'eurodélégués d'entendre François Lachat sur son expérience et pouvoir peut-être connaître davantage et mieux l'histoire du canton du Jura, le gouvernement peut effectivement le regretter, peut regretter la mésentente ou le problème qu'il y a eu dans l'organisation. Par contre, n'en assumant rien, la responsabilité n'était pas été nantie de l'organisation de cette rencontre et n'ayant en rien participé à l'organisation de cette dernière.
Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, quelle est votre appréciation? Monsieur le député Pierre-André Comte est partiellement satisfait et nous passons à la 10e question orale. Pour ça, je passe la parole à monsieur le député Vincent Eichmann.
Vincent Eichmann, député PDC de Vic, qui monte donc à la tribune pour la 10e question orale.
Monsieur le président, madame et messieurs les ministres, chers collègues, le lundi 26 août dernier s'est produit un accident de la circulation à l'intersection de la route cantonale de Vic et de la route de Courant de l'Ain. Une automobiliste n'a pas accordé la priorité à une jeune cycliste qui a été percutée et est tombée lourdement sur la chaussée. Cet endroit est connu pour sa dangerosité car les automobilistes en provenance de Courant de l'Ain ont souvent l'habitude de ne pas respecter le céder le passage malgré une visibilité réduite sur le trafic en provenant de Kourou sur cette route cantonale. Aussi, je demande au gouvernement si des mesures de modération du trafic peuvent être étudiées sur ce carrefour sensible. Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député, pour la réponse du gouvernement. Je passe la parole à monsieur le ministre David Herret.
Monsieur le député, effectivement, un accident a eu lieu au mois d'août de cette année. Accident d'autant regrettable qu'une personne a été blessée. Et pour vous dire, ce carrefour a déjà été analysé par le passé. Il avait été défini que des mesures n'étaient pas nécessaires pour le sécuriser davantage. Par exemple, un îlot aurait pu être posé, mais en général, un îlot, ça peut être peut-être même pire pour la sécurité, notamment des cyclistes, selon la configuration. Par contre, effectivement, suite à cet accident du mois d'août, le service des infrastructures, le SIN, a donc eu contact avec la commune et a lancé une nouvelle expertise de ce carrefour pour voir si des mesures pouvaient quand même être prises et dans le but, bien évidemment, de sécuriser le carrefour, en particulier pour les cyclistes qui cheminent à travers ce carrefour. En tous les cas, je ne peux pas vous donner de confirmation que des mesures seront prises, mais je peux vous informer que le SIN travaille de façon coordonnée avec les autorités communales et que donc les meilleures décisions seront prises entre les deux parties, la commune et le service des infrastructures.
Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, quelle est votre appréciation ? Monsieur le député Vincent Richemin est satisfait. Et pour la 11e question orale, je passe la parole à monsieur le député Philippe Rotet.
Philippe Rotet, député UDC de Delémont.
Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame, Messieurs les ministres, récemment, un ressortissant étranger a été condamné pour trafic de drogue dure et a bénéficié de l'aide sociale pour plusieurs centaines de milliers de francs. Le service de la population a demandé son expulsion. La cour administrative, pour des raisons familiales, a décidé de lui rendre son permis B. Comme la loi le précise, le canton a-t-il fait recours auprès du tribunal fédéral ou préfère-t-on plutôt qu'il continue son trafic de drogue en intoxiquant la jeunesse de notre pays? L'intérêt public doit primer sur l'intérêt privé. Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député, pour la réponse du gouvernement. Je passe la parole à madame la députée Nathalie Bartolo.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, effectivement, nous avons eu, il y a quelques semaines de cela, le service de la population qui a été débouté dans une décision prise par rapport à une personne ressortissante étrangère et au bénéfice d'un permis. Ceci dit, le service de la population a pris acte de la décision du tribunal cantonal qui a cassé la décision que le SPOP avait prise, soit celle de renvoyer cette personne sur un autre territoire que le territoire suisse au motif que cette personne a une famille ici. Dès lors, et comme ce genre de décision ressort exclusivement du secrétariat d'État aux migrations, ce dernier a été informé de la décision du tribunal cantonal et c'est cette autorité-là qui prendra toutes les décisions utiles par rapport à la suite.
Merci, madame la ministre. Monsieur le député, quelle est votre appréciation ?
Pas satisfait.
Monsieur le député Philippe Rotet n'est pas satisfait et nous passons à la 12e question orale. Et pour ça, je passe la parole à monsieur le député Irmin Reyes.
Irmin Reyes, député suppléant des Enfers.
Monsieur le Président, chers collègues, madame, messieurs les ministres, suite à un reportage de la RTS ce lundi soir sur la pénurie de certains médicaments dans notre pays, notamment 600 produits en rupture de stock, anticancéreux, antibiotiques, antihypertenseurs, vaccins et j'en passe. Grande incompréhension pour moi qui pensais vivre dans le bastion de la pharmacologie. En cause des délocalisations économiques et des fragmentations de fabrication. Sans parler des conséquences sur les patients, rationalisation, substitution de médicaments, voire utilisation de médicaments périmés. Et cas rares, perte de chances de guérison. L'émission parlait également du coût que cela engendrait, investissement de temps pour le personnel soignant, les pharmacies et la substitution de médicaments plus chers jusqu'à 6 fois. Ma question est, est-ce que le gouvernement jurassien a mis en place pour faire face à cette pénurie? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Jacques Herbert.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, en 2016, déjà, le Conseil fédéral a adopté un rapport sur l'approvisionnement en médicaments à usage humain en réponse à un postulat au niveau des chambres fédérales. Celui-ci comprenait également des recommandations au canton. Actuellement, l'Office fédéral de la santé publique est en train de produire un rapport de suivi
qui identifie les champs d'action dans lesquels des mesures supplémentaires sont nécessaires pour justement maîtriser efficacement les pénuries croissantes que vous mentionnez, monsieur le député, dans l'approvisionnement en médicaments en Suisse. Ceci, bien sûr, pour avoir la vue d'ensemble sur l'ensemble du territoire suisse. Actuellement, les cantons sont consultés pour évaluer leur situation. Pour le canton du Jura, un travail de fond est déjà effectué au niveau des officines, à savoir que les pharmaciennes et les pharmaciens sont habilités à fabriquer plusieurs types de formules et que ces différentes formules sont analysées et évaluées par la pharmacienne cantonale. La plupart des pharmacies jurassiennes sont aujourd'hui équipées pour faire de la fabrication, mais bien sûr en petite série. D'autre part, l'hôpital du Jura vient de s'équiper d'une unité de fabrication centralisée de chimiothérapeutiques au sein de sa pharmacie sur le site de Lémont. Vous avez également mentionné qu'il y avait parfois des pénuries dans ce domaine également. La problématique de la pénurie des médicaments est suivie donc de près par la pharmacienne cantonale. Depuis quelques années, sur demande des pharmaciens cantonaux, un système de notification des médicaments a été mis en place par l'Office fédéral de l'approvisionnement économique. Ce système permet notamment aux professionnels de prendre connaissance des médicaments en manque et justement de prévoir des collaborations pour parer à ces pénuries. Toutefois, le système actuel ne permet pas d'anticiper suffisamment ces manques à venir et doit être amélioré. On verra peut-être que partiellement dans la réponse ou le développement de la motion interne sur le prix des médicaments, nous aurons également des éléments qui amèneront encore des points pour ce dossier. Mais concrètement, au niveau jurassien, très souvent, le patient ne se rend pas compte du manque d'approvisionnement pour son propre médicament. Les professionnels parlent le plus souvent à des solutions alternatives satisfaisantes, comme je viens de le mentionner. Donc, on reste en contact avec les autres cantons, on reste en contact avec l'Office fédéral pour justement garantir qu'il n'y ait pas de pénurie pour les patients jurassiens.
Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, quelle est votre appréciation? Monsieur le député Irmerès est satisfait. Nous passons à la 13e question orale. Pour ça, je passe la parole à Madame la députée Pauline Queloz.
Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, chers collègues, en mai dernier, le président du gouvernement, Jacques Gerber, répondant à une interpellation du député Rémi Meury, nous apprenait à cette tribune qu'en cas d'élection du ministre des Finances au Conseil des États cet automne, une élection partielle au gouvernement pour le remplacer aurait lieu au mieux au mois de mars 2020. Toutefois, à l'époque de cette interpellation, la candidature du ministre Charles Juillard n'était encore qu'une supposition. Maintenant qu'il est officiellement candidat et que son élection ne fait évidemment aucun doute, le gouvernement, qui sera amputé d'un de ses membres prématurément, a certainement déjà réfléchi à la réorganisation de son fonctionnement d'ici la fin de la législature. En effet, l'abandon de son poste par un ministre sera une première dans l'histoire du canton du Jura et laisse craindre la mise en péril du bon fonctionnement de l'institution. En l'occurrence, le président du gouvernement Gerber nous avait déjà informé qu'il y aura notamment de la suppléance à effectuer dans le gros dossier du budget 2020, qui est un sujet forcément délicat au vu de l'état désastreux des finances de notre canton. Ainsi, pendant la période transitoire entre le départ de Charles Juillard et l'élection partielle, soit plusieurs mois, qui prendra en charge le département des finances? Est-ce que son remplaçant désigné Martial Courtais assumera seul le remplacement, lui qui est déjà bien occupé dans son département? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Monsieur le Président du gouvernement, Jacques Gerber.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés.
Un peu de silence, s'il vous plaît.
Chers collègues, Madame la députée, depuis la dernière fois que je suis intervenu sur ce thème à cette tribune, effectivement, la candidature du ministre Juillard n'est plus un secret, est devenue une réalité. Par contre, son élection est toujours une supposition jusqu'à nouvel ordre. Mais je vous rassure, le gouvernement continuera de fonctionner. Il n'y a pas désert après le départ, si départ il doit y avoir, du ministre du département des Finances. Vous l'avez mentionné, il y a effectivement un suppléant qui est désigné formellement dans l'institution. Mais il est bien clair que nous savons la charge de l'ensemble des ministres à la tête de l'ensemble des départements. Nous allons évidemment réfléchir à la meilleure répartition des différents dossiers pour assurer cet intérim, je dirais jusqu'à effectivement une élection partielle qui devrait avoir lieu en deux tours, fin février, fin mars, pour après en fonction des candidats, en fonction du futur élu ou élue, eh bien de sa disponibilité à entrer rapidement en fonction. Ce n'est pas la première fois que le canton du Jura aura à vivre une élection partielle. Donc ça, c'est le propre du fonctionnement d'un gouvernement. Nous ne sommes pas le premier canton à devoir vivre cela. Les institutions vont survivre à cela de manière tout à fait satisfaisante. Et je peux vous garantir que l'équipe restante assumera avec efficacité et professionnalisme les tâches et les prestations d'un gouvernement et assumera sa responsabilité face au Parlement et aux différents débats, notamment sur le budget 2020.
Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée, quelle est votre appréciation ? Madame la députée Pauline Quelot est satisfaite et nous passons à la 14e question. Et pour ça, je passe la parole à Monsieur le député Didier Spies.
Didier Spies, député UDC de Kourou, pour la dernière question orale du jour.
Monsieur le Président, chers collègues, Madame et Messieurs les ministres, le projet Nouvelle répartition des tâches et des charges entre le canton et les communes est au point mort depuis plusieurs mois. Suite à l'annonce du syndicat intercommunal du district de Porrentruy que le projet proposé par l'Association jurassienne des communes, l'AJC, était apparemment très mal ficelé. Un tel projet doit se faire avec au départ une feuille blanche. Les différents acteurs, comme les communes, le canton, les syndicats intercommunaux et les autres partenaires, doivent prendre une certaine hauteur pour voir la situation plus globalement. Il est clair que si l'on tire à l'une des ficelles au niveau des tâches ou des charges, cela aura des répercussions à différents endroits. Un tel projet doit être mené sérieusement. Le groupe de travail doit avoir des objectifs clairement définis concernant l'agenda et des rapports intermédiaires. Aujourd'hui, le gouvernement devrait se positionner sur l'avenir du projet et arrêter de penser aux élections, car dans ce cas-là, nous pouvons repousser ce dossier facilement jusqu'en 2021, après les élections cantonales de l'automne 2020. D'où ma question au gouvernement. Quel est exactement l'intérêt du gouvernement pour ce projet très important pour les communes, mais aussi et surtout pour notre canton et finalement pour ses contribuables? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Charles Juillard.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, vous avez raison, monsieur le député, c'est un des gros dossiers qui a débuté il y a déjà un certain nombre d'années, qui prend un peu du temps, mais c'est un peu le propre de ce genre de dossier. Aujourd'hui, ce dossier est mené conjointement entre l'Association jurassienne des communes et le gouvernement. Un rapport a été fourni par le comité de pilotage, appuyé par le professeur Sogel de l'IDEAP. Il a été analysé par le gouvernement, qui a pris position sur les différentes propositions qui sont formulées. Et l'AJC, après avoir consulté ses membres, a aussi fait un rapport de synthèse sur ce projet. La prochaine étape consiste en une rencontre entre le gouvernement et le comité de l'AJC pour analyser ce qui est concordant, ce qui est divergent, et puis surtout sur la suite à donner, en particulier sur les points divergents. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Contrairement à ce qu'on a pu lire dans la presse et par rapport à certaines prises de position générales, si vous analysez les réponses qui ont été formulées,
formulé, mais à la JC, parce que c'est surtout de ce côté-là que les réponses sont intéressantes, eh bien, il y a, si on les prend isolément, commune par commune, pour celles qui ont répondu, il n'y a pas beaucoup de divergences. Elles sont importantes, mais il n'y en a pas tant que ça. De sorte qu'on devrait pouvoir avancer à un certain rythme. Je rappellerai que c'est la JC qui... Ben, on verra ce qu'elle en dit, mais que certaines associations de districts ont demandé à reporter ce dossier jusqu'à la connaissance des effets de la RFFA. Nous pensons pour notre part qu'on peut reporter peut-être d'une année pour voir les premiers effets, mais qu'il ne faudrait pas aller au-delà, parce que précisément, une des mesures proposées dans le cadre de ce projet, qui est la cantonalisation de l'impôt sur les personnes morales, pourrait régler... Bien des choses dans ce dossier, notamment réduirait considérablement la disparité entre les différentes communes de ce canton. Mais c'est un point qui est effectivement controversé, beaucoup moins qu'il n'en a l'air si on relie de nouveau la prise de position individuelle des différentes communes. Alors il n'est pas question d'élection ou de pas élection, c'est un dossier qui doit mûrir, qui doit prendre son temps, qui est en présence de 53 communes et le gouvernement, donc c'est pas quelque chose qui peut se faire comme ça du jour au lendemain, mais le dossier avance et d'ici, on espère pouvoir trouver une date avec le comité de la JC avant fin novembre pour pouvoir éliminer les divergences qu'il y aurait encore entre le gouvernement et la JC.
Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, quelle est votre appréciation ? Monsieur le député Didier Spies est satisfait. Il est 9h36, l'heure des questions orales est désormais terminée.